RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Christophe Giannesini. Je l'ai bien dit ?
Très bien.
Merci beaucoup. Vous êtes directeur associé d'Ecodev et puis à vos côtés, Tanguy de Trose. Bonjour Tanguy.
Bonjour Billy.
Vous êtes le DG adjoint de Metron. Aujourd'hui, nous allons accueillir, j'allais dire, un phénomène. Il s'appelle Manuel Malène. Il est président et cofondateur de Courbet. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Je dis que vous êtes un phénomène parce que on va voir un petit peu votre parcours. Et moi, ça m'a ébloui comme parcours. Ah oui, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait rêver. Alors, on commence avec Montbéliard, où vous êtes né, un 23 octobre. Mais très jeune, votre famille est partie dans le sud-ouest, enfin du côté de, dans la région de Bordeaux, où vous avez passé un bac économie. Alors, bac économie, pour poursuivre ensuite à l'Institut de commerce à Paris, et même avec vos diplômes en poche, vous n'aviez envie d'aucun métier en particulier.
Non, rien de... J'avais pas une envie comme ça. Il y a des gens qui ont des vocations et non, c'était pas mon cas.
Voilà. Et là, on va rentrer dans ce qui me fait rêver et qui va faire rêver beaucoup de personnes. Votre chance, à l'époque, c'est de rentrer dans le groupe Richemont. Parlez-nous un petit peu de ce groupe et de l'industrie du luxe.
Alors, le groupe Richemont, c'est un des groupes les plus importants. Mmh. C'est Cartier, c'est Piaget, c'est Baumercier, c'est Vacheron. Enfin, il y a pas mal de marques. Et effectivement, moi, j'ai eu la chance d'y rentrer en 1990, quand Cartier venait racheter Piaget Baumercier.
Alors, vous êtes rentré en tant que quoi?
Stagiaire.
Stagiaire?
Je suis rentré en tant que stagiaire et ensuite coopérant. J'étais coopérant en Suisse. C'est la plus belle coopération, je pense qu'on pouvait rêver. Être coopérant dans une marque de luxe en Suisse, c'était effectivement pas anodin.
Alors, c'est là que vous faites rêver. Vous êtes stagiaire et vous allez pourtant, au sein de ce groupe, enchaîner les présidences.
Oui, mais parce que c'était...
Piaget, directeur général de Baume & Mercier.
C'était comme une start-up. C'était comme une start-up. Franchement, c'était une petite équipe. C'était une aventure qui était incroyable. Au départ, c'était Piaget. Mmh. Effectivement. Et oui, je suis allé sur plusieurs marchés. J'ai eu cette chance-là, incroyable. Plus parce que, à mon avis, je passais dans le couloir plutôt que mes compétences, mais parce que j'étais là. Mais ça s'est fait comme ça. Et effectivement, je me suis régalé pendant quasiment 25 ans dans ce groupe.
Baume & Mercier, vous avez fait un détour par l'Espagne, c'est à cette époque-là
Alors, c'était Piaget en Espagne.
C'était Piaget en Espagne.
Et je suis revenu en France, où j'ai fait Piaget France et ensuite Baume & Mercier France.
Alors après, il y a un beau coup de poker qui se joue avec un ami. Vous rachetez la marque Poiret.
Oui, avec un ami et un fonds également.
Oui, bien sûr, mais très important. Vous rachetez Poiret.
Mais effectivement, on rachète Poiret, c'était en 2013, effectivement. Et puis, donc on a vécu 4 années formidables. Et puis moi, à la fin 2016, début 2017, je quitte cette aventure-là pour une autre.
Et l'autre s'appelle Courbet.
Oui.
Alors,
ouais.
Courbet, c'est pas compliqué, c'est Place Vendôme. Oui. Il n'y a rien de plus prestigieux. Et Place Vendôme, vous sortez une marque écologique de bijoux de luxe. Pourquoi le nom de Courbet?
Alors Courbet, on voulait un nom français, tout simplement. Et on cherchait un nom avec une connotation disruptive, le cas échéant. Et Gustave Courbet, évidemment, il a fait L'origine du monde, ce tableau que vous connaissez tous, qui est assez drôle parce que c'était un tableau qui était caché derrière un autre tableau à l'époque. On ne peut toujours pas le mettre sur Facebook. Mais ce que les gens savent moins, c'est que Gustave Courbet, en 1871, il est communard et haut placé dans la commune de Paris. Et c'est lui qui fait déboulonner la colonne Vendôme. Et il fait déboulonner la colonne Vendôme parce qu'il dit « Je suis rue de la paix, la première chose que je vois rue de la paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. » Il dit « Non, ça doit aller ailleurs et non, on doit faire autre chose. » Donc quelqu'un qui a voulu changer la face de la place Vendôme, ça avait quand même pas mal de sens.
Il est très très fort. Alors vous aussi, je ne dis pas que vous allez la changer, mais je voudrais savoir comment vous avez été accueilli parmi tous ces grands noms de bijoux, de joaillerie, puisque vous avez fait le choix d'un diamant de laboratoire.
Alors, je ne sais pas si on a été accueillis, on a été reçus.
Oui, pas toujours très bien, peut-être.
Pas forcément très bien. Non, c'est vrai que on venait avec ce côté un petit peu disruptif où effectivement on utilise de l'or recyclé qui vient des téléphones portables, des ordinateurs, puisqu'il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, donc autant le réutiliser. Et ensuite, ces diamants de laboratoire, ces diamants que l'on crée, et qui est juste la reproduction de ce que la nature a fait. Hein. On met le carbone dans le même état qu'il y a des millions d'années pour obtenir le même résultat, un diamant. Avec le côté écologique, parce que juste pour vous donner un chiffre, pour trouver dans la nature, c'est-à-dire dans les mines, qui sont les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, un diamant de 1 carat c'est 0,2 grammes. On va jusqu'à extraire 250 tonnes de minerai, c'est le poids de 3 avions. Voilà, donc pour quelque chose de 0,2 grammes, à partir du moment où on peut s'en passer, c'est formidable. Donc oui, on a été... Non, on a été pas si mal accueillis que
ça. Non, mais vous ne pratiquez pas les mêmes prix, quoi. Soyons clairs.
Ni les mêmes prix, ni j'ai envie de dire même la même philosophie, surtout. Oui. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on a mis l'écologie un peu au centre de nos revendications. Et voilà, nos écrins, c'est du cuir recyclé, c'est un thé bio, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais toujours avec une idée très simple. Nous, on a une phrase qu'on adore chez nous, qui est « sans le bien, le beau n'est rien ». Mais on est bien, bien conscient qu'il faut que ça soit beau.
Ce serait presque un sujet pour le bac, dites-donc. Allez, Jean-Christophe, première question.
Oui, bonsoir Manuel. J'avais du coup une première question à laquelle vous venez en partie de répondre. C'était, est-ce que vous avez déjà travaillé justement sur l'impact carbone, peut-être, du diamant de synthèse versus le diamant naturel?
Alors, il faut beaucoup d'énergie pour produire du diamant en laboratoire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, si l'énergie est verte, il n'y a aucun problème. Donc, on va aller chercher aujourd'hui là où l'énergie est la plus verte. Aujourd'hui, on achète notamment nos diamants aux États-Unis. Parce que c'est fait avec du nucléaire et du solaire. Le nucléaire reste l'énergie la plus décarbonée. Par contre, nous, on milite depuis toujours d'avoir un diamant français. Et donc, on a aidé une chercheuse du CNRS à monter une société qui s'appelle Diam Concept pour produire du diamant en France. Et là, il y aura un bilan carbone qui sera exceptionnel sur le diamant. Et puis, on aura la chance d'avoir un truc 100% français. Et je trouve que dans la joaillerie, ça fait sens.
Super, merci.
Tanguy.
Oui, mais écoutez, moi, je me régale de découvrir votre histoire. J'ai l'impression, à vous entendre, que la maison Courbet a un point commun avec Metron, à savoir, on bouge les lignes, on est un peu disruptif. Vous, dans le domaine de la joaillerie, nous, dans le domaine de la gestion de l'énergie, ça vous fait quoi, aujourd'hui, d'être un peu le mouton noir ou celui qu'on regarde un peu bizarrement?
Oh, je ne sais pas si c'est le mouton noir, le trublion, j'aime bien.
Le trublion, oui.
Ouais, sincèrement, ça me fait plaisir.
Vous aussi?
Non, ça m'éclate.
Ok, on est en
face. Non, ça m'éclate. Voilà, j'ai joué longtemps au rugby et j'étais plutôt dans la mêlée que dans le... Voilà, donc j'aime bien le combat. Et franchement, oui, c'est plutôt sympa. Donc ça veut dire au moins qu'on fait réagir.
Voilà. Jean-Christophe, une autre question?
Oui, j'avais une question, moi, par rapport à alors, je ressens bien que l'ADN même de la structure est vraiment lié aux valeurs de durabilité et d'impact. Je voulais savoir de quelle manière, aujourd'hui, ça se ressent et ça se retranscrit dans l'organisation en tant que telle. Est-ce que vous visez des certifications plus internes que les labellisations que vous avez pu avoir sur la partie luxe, type B Corp, ou ce genre de choses?
Alors, ça, c'était assez... j'ai eu du mal, moi... Pour ces certifications. C'est-à-dire qu'en gros, on nous demandait plus qu'on demande aux autres. Alors que nous, de par notre ADN, dès le départ, on s'est construit comme ça. On se dit, mais attends, on demande de nous justifier en permanence. Alors, il y a un moment donné, on l'a fait. Donc, effectivement, on est Positive Luxury, qui est un label. On a fait notre bilan carbone type 3. Donc, on a fait toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que, dès le départ, on s'est construit comme ça. Et c'est vrai que tu dis, attendez, les autres, allez demander aux autres, quoi. Et à un moment donné, franchement, c'est tellement différent chez eux. Et moi, je suis tout petit, je me construis comme ça, je me bats pour faire toutes ces choses-là. J'essaye d'aller au bout du truc, et vous venez quelque part un peu m'emmerder. Mmh. Voilà.
Tanguy, dernière question.
Oui, mais à vous entendre, vous avez pratiquement toutes les caractéristiques d'une clean tech, hein.
Ouais, en plus, la techno, c'est assez drôle parce que c'est finalement, l'écologie, certes, c'est le premier prisme. Le deuxième, c'est la techno. Et en fait, nous, l'idée qui nous est référée avec Marianne, parce que je suis cofondateur avec Marianne Weichmeister, qui est la designeuse, directrice artistique et bien plus dans cette société, c'était de dire, cet objet, ce diamant-là, il vient du CNRS, il vient de la haute techno, et il arrive chez l'établi d'un artisan qui, depuis 3 générations, fait de la même manière. Et c'est ce mélange-là qu'on trouve super excitant. Et si tu arrives à avoir ce mélange-là sous une marque écologique, digitale, Place Vendôme, wow, ça fait sens, quoi. Voilà.
Ça fait sens. Au niveau de la pub, vous communiquez comment?
Énormément sur Internet.
Sur Internet.
Énormément. D'accord. Sur Internet, oui.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Tanguy. Merci, Jean-Christophe. Vous avez évoqué, Manuel, il y a quelques instants, le rugby.
Oui.
Vous étiez au cœur de la mêlée. Vous aimez la bataille. Vous en faites plus, hein, du rugby.
Oh, on peut pas être et avoir été. Hein,
donc. C'est ce que vous m'avez dit, ouais. Alors, vous avez aimé aussi beaucoup le handball.
Ouais.
C'est un sport, vous avez même été le vice-président de la Ligue nationale de hand.
Absolument.
Là encore, vous êtes spectateur, tout va bien?
Oui, là, j'étais spectateur. Non, c'était histoire de rendre au sport ce qu'il m'avait donné. Et moi, je suis rentré dans Richemont, dans le groupe Richemont, parce que je faisais du sport. Parce que je faisais du rugby et du tennis, en l'occurrence. Donc, c'était un moyen de rendre. Et puis, le handball, sincèrement, c'est du rugby en salle, quoi. C'est fantastique.
Mmh. Alors, sport de raquette, vous aimez aussi. On va parler deux secondes du tennis. Mmh. Quand je vous disais que c'est un homme, un drôle de gars qu'on reçoit aujourd'hui, parce que, bon, vous adorez Nadal, et on comprend, parce que Nadal a un jeu qui est exceptionnel. En plus, cette année, avec les problèmes qu'il avait au pied, il est quand même 14 fois gagnant de Roland-Garros. C'est exceptionnel. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'avant Nadal, il y avait un joueur qui jouait pas comme lui, mais qui avait cette force aussi, c'est John McEnroe.
Ouais.
Qui avait une force et physique et de caractère qu'on adorait voir jouer et qui était brillantissime. Vous avez joué en double avec lui?
Ouais, racontez-moi. Je jouais contre lui.
Mais racontez-moi. Il a cassé sa raquette de colère?
J'étais avec Guy Forget contre lui et Jean-René Fourtout. Et recevoir le service de John McEnroe, c'est-à-dire que même si tu sais jouer, t'as la raquette qui tremble, tu reçois le truc, tu te dis, oh putain, c'est... Et c'était exceptionnel. C'était franchement un moment incroyable. Et une petite anecdote, j'ai le temps.
Ah oui, allez-y.
Je tente un passing, je me dis, il faut tenter le passing, quoi. Je tente le passing, je le réussis. Le truc, mais alors j'étais fier que Martaban. Et je monte à la volée, donc on se croise avec Guy, qui était mon partenaire, et Guy me dit, t'es con, on va le payer.
Bah oui.
J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ouais. Et puis deux points plus tard, il m'a smashé entre les jambes. Et en me regardant, je dis, ok, j'ai compris, laisse.
Bon, vous avez gagné ou vous avez perdu face à McEnroe?
On a perdu.
Vous avez perdu.
On a perdu.
Donc ça lui a évité de casser sa raquette.
Oui, oui, oui. Moi, ça me l'a dit très bien. Moi, je...
Oui,
moi
aussi. Mais enfin, quelle aventure jouer avec John McEnroe. On va terminer avec un autre Américain dont vous êtes fan. C'est Springsteen. Alors, c'est un chanteur, effectivement, qui bouge les foules.
Ouais.
Et quand il y a une tournée qui est annoncée pour Springsteen, c'est pas que vous faites une date. Vous allez en faire jusqu'à 15.
Oui, c'est un peu dingue, oui, j'en conviens.
Ah oui, mais moi aussi, oui.
Je le reconnais. Non, ouais, c'est un truc assez étonnant, quoi. Il m'accompagne depuis que j'écoute de la musique.
Mm-hmm.
Et en fait, effectivement, il se produit dans des stades où il y a 70 000 personnes. Et j'ai toujours l'impression qu'il chante pour moi, donc...
On est bien d'accord. Quel est votre titre préféré de Springsteen? C'est difficile, hein?
Ouais, non, j'en ai pas. Sincèrement, j'en ai pas. Non, voilà. Non.
Autant de plaisir quand il chante Point Blank que un Greyheart.
Ouais, exactement. Non, non, voilà. Franchement.
Que ce soit de la balade ou du rock, vous aimez. Vous confirmez, puisqu'on est quand même quelques-uns à l'avoir vu sur scène, 4 heures. Hein.
Alors oui, c'est entre 3 et 4 heures, ouais. C'est entre 3 et 4 heures.
Rien là-bas, ce garçon.
Mais c'était un truc, juste, pareil, anecdote, Stade de France. J'ai un de mes potes qui s'occupait du Stade de France. Il vient au Stade de France, donc il me fait rentrer, parce qu'il savait que j'étais fan, il me fait rentrer du style 2h30 avant, là, et on est là, on est 1000 personnes, et là, Bruce Springsteen sort. Il va chanter 5-6 chansons juste pour nous et dit à tout à l'heure. Et il repart.
Waouh.
Ça classe.
Moi, je vous dis, hein, entre Poiret, les titres de directeur de luxe que vous avez eu, John McEnroe et Springsteen.
La chance, tout simplement.
Moi, je pense que je vais vous accompagner. Je vais être votre attaché de presse. On termine par un dernier point. Vous avez une grande tendresse, m'avez-vous dit. Donc, ce sont des mots forts. Grande tendresse pour le gin. Tonic et le Ricard.
Ah oui.
Ça vient de la troisième mi-temps.
Disons que j'ai l'alcool plus festif que gustatif.
D'accord. C'est pour ça que les vins, bon.
Voilà, exactement.
Mais je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Je souhaite beaucoup de succès quand même à votre marque.
C'est gentil.
Courbet, parce que il faut le faire, il faut avoir l'idée, il faut s'occuper de la planète, et le bijou c'est universel. Donc quand en plus il se préoccupe de la grande bleue, cette belle planète, on vous remercie infiniment.
Merci.
Merci également évidemment à mes compagnons de route, Tanguy et Jean-Christophe. Et puis merci à vous, Manuel, bien évidemment. La prochaine fois, vous viendrez avec une bague, ce sera encore mieux. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.